Bienvenue aux amis auditeurs et auditrices du 97.9. Vous êtes sur Fréquence Sillé, c'est le journal de la Haute-Sarthe, journal de la Haute-Sarthe qui d'habitude vous est présenté par Noël et qui là sera présenté par Noël pour la deuxième partie après 18h, puisque nous allons en fait consacrer intégralement ce journal de la Haute-Sarthe à l'Europe, avec deux moments bien différents, puisque dans un premier temps nous serons pendant une heure avec des invités venus de divers pays européens, des adultes qui accompagnent en fait des jeunes qui sont ici à Ciel-Guillaume. Et nous aurons également Stéphane Le Foll, député européen en ligne aux alentours de 17h10. Et nous aurons ensuite, donc avec Noël, une intervention dans le cadre de la campagne pour le référendum, l'intervention donc d'un représentant du Parti communiste. Mais pour l'instant, nous allons donc nous présenter. Je vais demander à Julie Newell qui nous accompagne. Julie Newell qui nous a accompagné dans les émissions l'année dernière, les émissions européennes menées par Fréquence Sillé et ses partenaires européens. Je vais demander à Julie Newell tout simplement de souhaiter la bienvenue en anglais. Nous allons utiliser les deux langues à nos invités et de leur demander de se présenter.
So I'd like to welcome all the people who have accompanied the children from different European countries to come here today. Perhaps you could introduce yourselves.
My name is Karina and I am a teacher from Poland.
Bon, je suis Marina de Lettonie.
My name is Tim and I come from Germany.
Alain Chivard de Concarneau.
Bonjour, c'est Marie-Josée Schack de Vils. Je suis professeure de français au lycée du Nord, au Grand-Duché. Donc.
Alors, bonjour, je m'appelle Phil et je viens de l'Irlande où je suis professeur de français.
Bonjour, my name is Soren. I'm from Denmark, from Sønderborg.
Et my name is Maripaz. I come from Spain. Et j'essayerai de parler en français.
Thank you.
Alors, on peut rappeler qu'il s'agit là d'enseignants, de conseillers d'éducation pour notre ami de Concarneau, et qu'ils enseignent tous des disciplines très 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 variées, très très différentes, puisque d'autres enseignent l'histoire ou enseignent toutes sortes de disciplines, car il y a quand même une dimension qui est importante, c'est que il n'est pas nécessaire pour faire l'Europe de parler forcément toutes les langues. Est-ce que tu peux nous dire aussi en anglais pourquoi il est important finalement de ne pas parler toutes les langues pour faire l'Europe?
In fact, the teachers who've come here today, they're not all language teachers. Some of them are teachers of history. Some do other jobs in the schools. It's not necessary just to speak English. We can find ways of communicating together.
Alors tout à l'heure, on a eu José a commencé à nous dire quel était son enseignement. Est-ce qu'on peut demander à Karina, à Marina et à Tim de nous dire quelles sont les disciplines qu'ils enseignent?
Yeah, could you tell us which subjects you teach in schools, Tim? Which one?
Yes, I teach English and PE.
Okay, Karina?
I teach English only.
Et moi, j'enseigne le français.
Et on a tout de suite compris, hein. Donc, deux professeurs d'anglais, un professeur de français. Les langues sont quand même très sérieusement présentes. Alors, dans le courant de cette émission, je vous le disais, le principe qui sera développé, c'est un principe d'échange autour de la journée de l'Europe. Et autour de la journée de l'Europe, parler de la façon dont on perçoit l'Europe dans nos différents pays.
Okay, because it's Europe Day today, that's why everyone's here together to exchange information and to get to know each other's countries.
On va donc dans quelques instants prendre contact avec Stéphane Le Foll à Paris. Donc du côté de la technique, on va instaurer cette liaison. Et donc après avoir passé donc une dizaine de minutes avec Stéphane Le Foll, nous demanderons donc à nos invités de témoigner sur la façon dont ils perçoivent l'Europe dans leur pays et également peut-être de réagir à des propos qui auront été tenus par Stéphane Le Foll.
Okay, while we're waiting for the deputy to come on the phone, we'd like to ask the adults present in the studio to tell us how they see Europe in their different countries.
Alors, donc, en attendant que la liaison soit établie, je propose qu'on parte quelques instants avec un petit accompagnement musical qui va nous permettre tranquillement d'avoir cette ligne avec Stéphane Le Foll, donc, qui nous fait l'honneur donc, de nous accorder quelques instants dans un emploi du temps, dans un agenda que nous savons très très chargé. Il est 17h11, vous êtes sur Fréquence Cillée sur le 97.9 dans une émission qui est aujourd'hui journée de l'Europe, évidemment à l'Europe, avec en studio donc des représentants de différents pays, c'est l'Espagne, c'est l'Irlande, c'est le Luxembourg, c'est la Lettonie, c'est le Danemark, c'est la Pologne, c'est l'Allemagne, et puis c'est la Bretagne en plus de Ciel Guillaume. Et nous devons avoir, je pense, en ligne à Paris, Stéphane Le Foll, député européen. Stéphane Le Foll, est-ce que vous m'entendez ?
Je vous entends très bien.
Bonjour Stéphane Le Foll.
Bonjour.
Merci d'abord de bien vouloir répondre à nos questions. Alors vous savez qu'autour de nous ici, toutes les personnes qui sont dans ce studio attendent d'avoir votre sentiment, votre vécu, votre ressenti de député européen par rapport aux sujets qui sont complètement d'actualité. Alors Stéphane Le Foll, le premier sujet évidemment dans l'actualité, c'est l'élargissement de l'Europe un an après, il y a un an, parmi nos amis ici, les amis polonais, les amis de Lettonie, entraient en Europe. Quel regard, un an après, vous avez sur cet élargissement ?
Moi, je voudrais dire d'abord que en 1989, le mur de Berlin s'est effondré. Et qu'à partir de ce moment-là, était posée la question de savoir s'il fallait réunifier l'Allemagne, Et ici, il fallait intégrer à l'Europe ces pays qui avaient vécu sous le joug soviétique pendant près de 50 à 60 ans. Cette question s'est posée et il est apparu évident que la construction de l'Europe, alors que tous ces pays souhaitaient rentrer dans l'Union européenne, il est apparu évident à tout le monde qu'on ne pouvait pas, sauf à prendre un risque, à nos portes, à nos frontières, des pays qui seraient restés dans une situation économique et sociale très différente de la nôtre, si, pour éviter ce risque, eh bien, la bonne solution était de ne pas les intégrer dans l'Union européenne pour faire en sorte que ce continent se réunifie et se renforce de tous ces pays, de leur histoire, de leur richesse, et que l'on fasse, comme ça s'est passé avec l'Espagne, le Portugal, une intégration qui permette à ces pays de voir leur développement économique, la démocratie s'installer et en même temps se rapprocher de l'ensemble du continent européen, de cette vieille Europe, comme on dit, celle qui s'est créée en 1957. C'est un enjeu politique et pour moi, il était nécessaire, en particulier pour éviter une concurrence entre nos pays et ces nouveaux pays, que nous les intégrions dans l'Union européenne pour leur permettre d'assurer leur démocratie et puis de favoriser leur développement.
Alors, Stéphane Le Foll, donc, nous allons être dans la nécessité de traduire vos propos, puisque nous avons autour de la table une majorité, en fait, d'anglophones, puisque le français a quand même eu du mal à percer en tant que langue européenne. C'est vrai que c'est l'anglais qui s'impose un peu partout, comme langue outil, en tout cas. Et concrètement, ici, c'est le cas. Donc, si vous le voulez bien...
Juste un mot pour vous dire que quand même, au Parlement européen, c'est vrai qu'on parle anglais, mais on parle aussi beaucoup français.
Tout à fait. Si vous permettez, donc, une petite traduction pour que nos amis puissent
tout à fait
suivre.
Hein.
Merci. Julie.
Okay, he talked about when the Berlin Wall came down in 1989, people thought that the countries that had previously been under communism should be integrated into the rest of Europe. Some people saw this as a risk, that opening the doors to different economic systems, it might be difficult, but the way forward was to integrate those countries and to reinforce links between them. He gave the example of Spain and Portugal. Democracy has been installed. To avoid competition between old Europe and new Europe, it was decided to favorise development.
Voilà, dans les grandes lignes, vos propos qui, je pense, n'ont pas été trahis.
Non.
Alors, maintenant, donc, vous avez plutôt un regard satisfait, optimiste ou pessimiste suite à cet élargissement?
Rien n'est gagné. Cet élargissement, pour qu'il soit une réussite, il faut que nous ayons la même stratégie, comme je le disais tout à l'heure, que nous avons eue avec l'Espagne, le Portugal, mais la Grèce, l'Irlande. Et c'est en ayant cette stratégie qu'on pourra assurer le développement de ces pays, qui deviendront, j'en suis sûr, et moi je le constate au Parlement européen, des partenaires, et non plus uniquement des adversaires. C'est ça aussi la construction de l'Europe, c'est construire ensemble des liens qui soient forts pour que nos intérêts soient des intérêts communs.
Alors,
tous ensemble.
Votre sentiment justement sur une autre question, c'est l'élargissement à venir. Nous avons parmi nous ici des amis qui représentent la Roumanie par exemple. Nous avons parmi nous des amis qui vont également nous rejoindre l'année prochaine en Bulgarie et en Turquie. Quel est votre sentiment par rapport à la notion même d'élargissement? Jusqu'où peut aller cet élargissement?
D'abord, la question de la Turquie n'est pas du tout du même ordre que celle que vous évoquez avec la Roumanie ou la Bulgarie. La Turquie, on a simplement engagé des négociations en vue d'un futur élargissement à la Turquie. Ces négociations dureront entre 10 et 15 ans et au bout du bout, personne ne sait, et moi le premier, si la Turquie pourra intégrer l'Union européenne. Les critères qui ont été mis à l'intégration de la Turquie, et si on adopte le traité constitutionnel en plus, tout ça fait qu'il faut que la Turquie fasse encore des années et des années d'efforts. Le souhaitera-t-elle? Pourra-t-elle le faire? Personne ne peut le dire aujourd'hui. La seule chose qu'il y a de sûr aujourd'hui au niveau de la Turquie, c'est qu'on a engagé des négociations. Point. Donc, ce n'est pas l'objet du débat aujourd'hui. Pour ce qui est de la Roumanie et de la Bulgarie, ils ont vocation à rejoindre l'Union européenne, mais faut-il encore là aussi que ces pays fassent les efforts nécessaires pour intégrer l'acquis communautaire, c'est-à-dire tout ce qui fait aujourd'hui la construction européenne. Ces pays sont engagés, il y aura des évaluations qui seront faites, faut-il encore que les évaluations permettent effectivement de considérer que la Roumanie comme la Bulgarie peuvent à terme, c'est-à-dire en 2007, intégrer l'Europe. Je crois que c'est sur la bonne voie, mais là encore, rien n'est fait non plus.
Alors Diana, qui est de Roumanie ici, vous écoute avec beaucoup d'attention, bien sûr, elle se sent très très concernée. C'est là qu'on se rend compte que l'Europe est une chose aussi très humaine et très proche, alors qu'on a souvent l'impression qu'on nous fait passer l'Europe pour une espèce de grosse machine finalement à broyer les identités. En fait, quand on est réunis ainsi, on se rend bien compte de la dimension réellement humaine de l'Europe. Je vais demander à Julie Newell justement de redonner les éléments à nos partenaires, à nos amis ici également en anglais.
He said that he would like the countries of Europe to be partners and not enemies, to construct Europe together and work for common interests. The second question was about where Europe is going in terms of enlargement. The question of Turkey came up. Negotiations have been going on for a very long time, 10 to 15 years. There are criteria that have not been met, so there's more work there to be done. As regards Romania and Bulgaria, they also need to make an effort. They are committed, but they need to evaluate what they're doing. They're on the right track to be integrated in 2007.
Alors, une autre question, Stéphane Le Foll, qui se pose évidemment, mais là, qui est beaucoup plus française, on pourrait dire, c'est la question du référendum. Est-ce que vous avez le sentiment que le référendum était le moyen le plus approprié pour avoir l'avis de la France? Est-ce que ce n'est pas finalement un sujet peut-être trop compliqué pour que l'on soit amené à voter par oui ou par non, simplement, sur une question aussi importante?
Je crois que l'intérêt du référendum, c'est que on parle d'Europe et les Français s'intéressent à l'Europe. On a souvent reproché à la construction européenne d'être lointaine et de ne pas véritablement intéresser nos concitoyens. À l'occasion de ce référendum, et moi qui me promène dans l'ensemble de la France aujourd'hui, je peux constater que cette question intéresse et qu'il y a un débat. Donc rien que pour ça, je pense que la voie choisie par le président de la République en convoquant un référendum, est positive. Faut-il encore que on explique bien les enjeux et que surtout on ne mélange pas les problèmes de politique intérieure, de politique nationale, hein, qui sont réels aujourd'hui, en France en particulier, avec l'enjeu que constitue l'adoption ou le refus du traité constitutionnel. C'est tout le débat et c'est aussi toute la difficulté, c'est vrai. Mais je crois que ce référendum a permis de discuter, de parler d'Europe, et ça, l'Europe en a besoin, et en tout cas, en tant que député européen, je trouve que c'est extrêmement positif. Les Français cherchent à comprendre, recherchent des explications, et tout ça fait que, depuis longtemps, on n'avait pas eu, de manière aussi approfondie, un dialogue direct avec nos concitoyens sur la question de la construction européenne.
Alors nous demanderons tout à l'heure à nos amis européens justement comment ça va se passer chez eux par rapport à ce traité constitutionnel. Julie va dans un premier temps donc faire part également de vos propos.
The question was about the referendum in France. Is this the best method to get an answer to such an important question, just by giving a simple yes or no? In his travels around France, he's seen that this question does interest people. It's provoked a lot of debate, which is positive, about what is at stake. But people shouldn't confuse or mix national and European political ideas. There are difficulties, but the referendum allows people to speak about Europe. French people are looking for explanations, so a direct dialogue with political leaders is very positive.
Alors, puisque nos amis européens ont le sentiment que le débat est très dur, très animé en France actuellement autour du oui ou du non, avec des enjeux certes importants, vous-même, est-ce que vous pouvez leur expliquer, avec les deux arguments qui vous paraissent les plus importants, votre propre position ?
Moi, je suis en faveur du traité constitutionnel. Au moment où on fête le 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la fin des camps d'extermination, l'enjeu de la paix, l'enjeu d'une Europe forte qui porte les valeurs de paix, de démocratie et aussi de modèle social, est pour moi un enjeu crucial. Et c'est pourquoi je milite en faveur de ce traité, parce que dans ces trois domaines, les libertés, la démocratie, les droits de l'homme et les droits du citoyen, la dimension sociale et aussi la dimension environnementale, ce traité apporte que des avancées, il n'y a aucun recul dans ces domaines, il n'y a que des avancées positives, et en conséquence de quoi, quand on est attaché à la construction de l'Europe, il me semble normal qu'on s'engage pour le oui au traité constitutionnel.
Est-ce que vous n'avez pas quand même le sentiment que le fait qu'il y ait eu un débat intense autour du oui ou du non, autour de la question d'une Europe libérale ou d'une Europe sociale, dans tous les cas, de toute façon, ça a lancé un débat et qu'aujourd'hui, ce débat devra être, de toute façon, ne pourra pas être contourné par les responsables politiques ?
Absolument. C'est aussi l'intérêt du référendum. C'est que partisans du oui comme partisans du non sont obligés d'avancer des arguments. Et que dans ce débat et ce dialogue, tous les arguments, s'ils sont sincères et vrais, eh bien, sont des éléments importants pour savoir comment demain on continuera à politiquement à construire l'Europe que nous souhaitons. Et de ce côté-là, ce référendum apporte un plus indéniable, et c'est pourquoi le débat est vif, et c'est pourquoi les arguments s'échangent. Faut-il, comme je le disais encore tout de suite, que ce soit des arguments vrais ? Je ne supporte pas, par exemple, qu'on dise que si on votait oui au traité constitutionnel, on n'aurait plus l'interruption volontaire de grossesse en France. C'est un mensonge. Mais le fait de poser les questions sur le modèle social, sur comment on lutte le mieux contre la mondialisation, ça fait partie du débat. Et c'est un élément qui, demain, sera aussi... autant d'arguments pour faire valoir la position de ceux qui pensent que c'est parce qu'on aura une Europe politique forte et démocratique qu'on pourra peser sur les choix du monde aujourd'hui, la mondialisation, la montée en puissance de grands pays continents comme l'Inde, la Chine, et que l'on pourra faire face à la surpuissance américaine. C'est tout l'enjeu de ce débat, comment on construit notre avenir en commun. Parce qu'on voit bien que face au monde tel qu'il est aujourd'hui, pour peser sur les grands choix que nous aurons à faire, eh bien, il faut qu'on soit unis et il faut qu'on soit forts.
Alors Julie va reprendre un petit peu et après je conclurai avec une dernière question beaucoup plus ciblée. Alors Julie, donc le point sur ces éléments-là concernant le vote autour de en France.
Well, he gave his own point of view 50 years after the end of the last World War. He thinks it's very important, peace and a strong economy. Both of these things are at stake. So he is in favour of this referendum. The questions of liberty, democracy and human rights are concerned. Now it's too late to go back. You can only go forward in a positive way. So it seems natural to him to commit to a yes. The other question that was asked about social issues, there have been many arguments. There are a lot of important elements to discuss. How are things going to continue? There's a lively debate going on about the social model that exists at the moment. Questions about globalization, which concern a lot of people. The deputy believes that in order to be strong against countries that are developing very quickly, like India and China, America, of course, Europe needs to work together to construct the future and to be reunited.
Ma dernière question, Stéphane Le Foll, n'étonnera pas nos partenaires autour de la table. Elle va concerner évidemment la question de l'éducation. Pensez-vous qu'actuellement, on en fait suffisamment en matière de sensibilisation des jeunes à l'Europe et que les programmes éducatifs sont suffisamment développés? Est-ce qu'on peut faire plus ou est-ce que finalement, on n'a pas montré par les programmes éducatifs la voie idéale?
Moi, je pense, l'éducation est une compétence nationale pour l'Europe. Mais je crois qu'il faudrait effectivement harmoniser un peu plus les programmes éducatifs et puis surtout faire en sorte qu'on en donne une conscience à chaque citoyen européen de ce qu'est l'histoire de l'Europe et la réalité de l'Europe. Et ça manque. Et ça, me semble-t-il, ça fait partie des grands sujets qui devront être au cœur de l'action politique qui sera la nôtre dans les années qui viennent, faire en sorte que l'Europe des citoyens, elle se construise pas à pas. Et pour construire une Europe des citoyens, il faut aussi faire en sorte que l'éducation dans chaque pays prenne bien en compte la dimension européenne, à la fois l'histoire de l'Europe, sans nier les histoires nationales, bien entendu, mais qu'on ait aussi une prise de conscience de ce qu'est l'Europe, de d'où elle vient, de comment elle s'est construite ou détruite aussi, parce qu'elle est plutôt marquée par des grandes périodes de guerre. Et je crois que pour la jeunesse de l'Europe, cette construction européenne, c'est quand même le plus beau levier qui soit pour construire un avenir qui soit respectueux d'un modèle social,
tout à fait,
respectueux des libertés, et puis aussi respectueux de notre planète de manière globale.
Très bien, Stéphane Le Foll, on a bien compris le sens de votre propos. Nous allons maintenant vous laisser à vos activités sur Paris, car vous étiez retenu aujourd'hui sur Paris.
Donc, je vous remercie en tout cas, et bonjour à tous les Sillyens, ayant joué au foot pendant 8 ans à Sillé.
Oh là là.
Je connais bien la région.
Bah, vive les footeux alors.
Voilà, salut.
Très bien, au revoir Stéphane Le Foll.
Au revoir.
Julie, donc on finit sur la question de l'éducation.
Yeah, the last question was asked about education, and is enough being done to make young people aware of European questions? The deputy said that educational programs should be harmonised. There should definitely be a European dimension. Each citizen or each pupil should understand the history of Europe, where Europe is coming from, where it's going. And obviously to be able to respect other people and liberty.
Voilà, donc il est 17h30, vous êtes sur Fréquencier sur le 97.9 et sur internet sur le www.fréquence-ci.org. Nous sommes dans une émission spéciale consacrée à l'Europe avec Stéphane Le Foll que nous venons tout juste d'entendre à propos de différentes questions sur ce sujet. Et puis autour de la table ici, des représentants de l'Espagne, de l'Irlande, du Luxembourg, du Danemark, de la Lettonie, de la Pologne, de l'Allemagne, de la Roumanie et également de la Bretagne. Et puis Crayon d'un chien, nous aussi, les Sillyens, on est là. Quelques instants de musique et nous partons ensuite en débat et on va essayer de voir comment ça se passe par rapport à cette question de la constitution, la perception de l'Europe dans ces différents pays. Ce sera une rencontre entre amis. 'Cause when the world's so gone is too... Comme je vous le disais donc juste avant cet instant musical, nous allons faire un petit tour de l'Europe pour avoir le sentiment de nos partenaires dans les différents pays sur différents points qui les sensibilisent plus particulièrement. Nous allons d'abord poser la question à nos amis de Pologne et à nos amis de Lettonie, puisqu'ils sont directement concernés. Il y a un an, la Lettonie et la Pologne entraient dans l'Europe. Donc on va essayer de voir ce qui a changé réellement. Julie va donc poser la question puisque nos amis polonais vont nous répondre en anglais.
Could you tell us about what has changed in Poland in the last year?
Yes, Poland joined the European Union on the 1st of May 2004, so it's been only 1 year. So that is why the changes are not very visible, but there are some, of course. EU membership opened many opportunities for the people of Poland. First of all, it offers new educational possibilities. Students can study in another member state, and they can experience other culture and learn languages. What is more, some EU countries, not all, opened their arms to Poles looking for a job in their countries. And so far, they are not disappointed. There are also harsh changes in agricultural system. And as you probably know, it's the most difficult problem in Poland. Although we've got the money for improving the farming, it is still not enough. And it will take some time to change the face of Polish agricultural system. And another great advantage of being an EU country is a possibility to travel without borders. Yes, and. Of course, there is still prejudice that Poles want to take only full advantage of UK or Germans' health service or unemployment benefit system. But those who think like that are quite clearly living in the past.
Français. Oui, elle a dit que... Il y a des changements en Pologne, surtout au niveau de l'enseignement. Maintenant, les élèves, ils ont la possibilité d'étudier à l'étranger. Et aussi, les Polonais peuvent travailler aussi en étranger. Il reste des problèmes, surtout au niveau de l'agriculture. Le système doit développer, doit changer. Maintenant, ils ont plus d'argent pour faire ce genre de choses. Et un autre avantage pour la Pologne, c'est que les gens peuvent voyager maintenant sans avoir un visa. Donc, c'est assez positif pour Pologne.
On va poser la même question à Marina pour la Lettonie, de savoir effectivement ce qui a aussi changé. Et Marina qui va peut-être d'ailleurs nous parler en français directement.
Ah oui. Eh bien, la Lettonie est un peu à part des autres pays parce que elle a récemment repris son indépendance. Elle fait ses premiers pas sur la voie de la démocratie aussi que sur l'économie de marché. Et bien sûr, chaque début est bien difficile. Et voilà pourquoi cette intégration dans l'Union européenne, c'était très important pour notre pays. Un an. Ce n'est pas un grand délai dans l'histoire. Eh bien, comme je viens de dire, c'est le premier pas qui coûte. Et au début, les difficultés, les problèmes sont plus visibles que les avantages, pour aujourd'hui peut-être. Mais quand même, on peut dire que la majorité de la population est bien satisfaite de la situation actuelle, bien que cette... phénomène comme égalisation, je ne sais pas si on dit en français, des prix, c'est un peu difficile pour les revenus de la population. Donc comme ça. Mais la liberté de déplacement,
Oui, l'espoir pour les jeunes de continuer ou faire leurs études en des établissements européens, bien sûr que c'est très, très, très profitable.
Peut-être dans l'autre sens, cette fois, vers l'anglais.
Ok, in Latvia, independence and democracy have become very important. It's just a first step. There are still some problems and... In fact, the problems seem more visible than the advantages. For example, the difference between prices and wages is difficult for some people to cope with. But in general, most people are satisfied to be part of Europe because there are advantages, as in Poland, young people can go and study abroad. And also there's the freedom to travel, which is very important.
Alors évidemment, la question suivante va aller vers un pays qui souhaite rentrer. Tout à l'heure, Stéphane Le Foll s'est exprimé sur la question. On a parlé un peu de Bulgarie et de Roumanie. Alors, c'est la Roumanie qui nous intéresse. Diana, qui va donc bien près du micro, nous parler de la façon dont aujourd'hui on ressent la question européenne en Roumanie.
Hey, hello. Today I will prefer English because it's better this way. We are very happy to become part of Europe and to be on this way of becoming an important part of Europe because we will be the borders of the European Union. And I think this is what most Romanians think, that it is a very good... and it is very good for us to be important for Europe. And it is good to be different in a united Europe, and we are happy because now we can see that we are seen as Europeans. We aren't asked for just for our passport, no visas today, even if we aren't yet actually part of Europe. And it is good for traveling, and it is good for jobs in the future, and we hope that this transition that is very difficult will pass away and we will be happy in the end.
In Romania, excuse-moi, en français.
oui, c'est plus compliqué.
Faut que je change. Ils sont très heureux. Ils sont pas encore en Europe, mais ils pensent que c'est très très important pour eux parce que la Roumanie, c'est sur la frontière de l'Europe, donc ils ont une place significante et ils vont avoir des avantages comme dans les autres pays, on vient de mentionner, pas de visa, des avantages au niveau de voyage, pas de passeport. Et au niveau de travail aussi, ils pensent que ça peut être plus facile pour aller travailler dans d'autres pays.
On pense effectivement que ce serait beaucoup plus facile pour tout le monde. Par contre, la question de la mobilité peut parfois apporter des situations un petit peu compliquées. Et c'est Paz qui va, pour l'Espagne, évoquer un aspect qui est justement l'aspect de la circulation. C'est le sujet dont tu voulais parler, Paz.
Oui, parce que nous, dans l'Espagne, nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de passer un procès pour la régularisation des immigrants. Et c'est le procès de papier pour tout. Et la question que je me fais, c'est comment est-ce que nous allons intégrer toutes ces personnes qui proviennent de tout le monde, mais principalement de tiers monde. Et c'est un problème pour nous parce que il n'est pas le problème de l'élargissement des pays de l'Europe, c'est le problème de l'intégration de personnes et dont la culture c'est très très différent. Alors nous devons les aider, nous devons nous ouvrir, nous devons changer un peu notre mentalité, mais en même temps nous devons pousser, nous devons stimuler les points qui nous qui nous font sentir ensemble comme une unité, et l'Europe comme une identité. Alors, c'est un équilibre, ce que nous sommes en train d'enfacer dans tous les pays de l'Europe, entre ouvrir nos mentalités vers les autres, pour, d'un côté, et de l'autre, maintenir l'identité.
Alors, Julie traduira juste après, mais je voudrais juste faire une remarque ou poser une question supplémentaire. L'Espagne est, semble-t-il, le pays qui a le plus bénéficié de l'avancée de l'Europe dans les 10 dernières années. C'est un pays qui s'est beaucoup développé, donc c'est un pays qui devient aussi très, très attirant. Est-ce que vous avez le sentiment en Espagne d'avoir vraiment bien bénéficié de l'aide, du soutien de l'Europe, de la dynamique de l'Europe?
Je pense que oui, que tout nous, nous avons le sentiment de dire merci à l'Europe en général, mais aussi la conscience de que nous devons aider les autres qui sont dans l'Espagne.
Alors, on a bien compris l'idée. Alors, justement, l'Espagne s'est déjà prononcée pour la Constitution?
Oui, nous sommes le premier pays
à avoir dit oui.
Oui, oui.
Très largement même. Et c'était par référendum ou c'était une décision gouvernementale?
Non, par référendum.
Référendum. Voilà. J'avais demandé à Julie de résumer ce que PASS vient de nous expliquer concernant l'Espagne.
At the moment in Spain, there's a law being passed to regularize the number of immigrants coming into the country, because this has been a problem for some time, how to integrate these people from other countries, particularly when they come from the third world. Their culture is very, very different. So it's not really the question of the enlargement of Europe that concerns them at the moment. It's how to accommodate people from other countries. And there needs to be a change in the mentality to open up to people from other places, to create a common identity and some kind of balance between the people who are there and the people who are coming in. A second question was posed about the benefits that Spain has noticed since being part of Europe, and they have been very, very positive. They would like to thank Europe for the help they've been given. They've recently had a referendum, and the answer was yes.
Alors, ma question maintenant va aller à Soren du Danemark. Et Soren, ma question, elle est très simple. Nous allons avoir le plaisir dans 3 semaines d'être reçus au Danemark. Nous serons au Danemark. Et j'ai commencé à faire une fiche, moi, pour des élèves, très simple, en disant, pas de problème, il y aura l'euro. Puis j'ai repris. J'ai dit, non, pas le Danemark. Soren, ma question, elle est très simple. Il y a quelques années, le Danemark a refusé l'euro. Est-ce que vous pouvez nous dire si aujourd'hui le Danemark regrette ou pas? Question in English.
Yes, the pupils from here are going to Denmark soon, and Mr. Luca realized that, in fact, you don't have the euro. He was going to get them to ask questions about that. What could you say about that? Does Denmark regret having said no to the euro? What's the position?
I think in general, the Danish population regretted very much, especially the larger companies who are already trading in euros across the world and in foreign currency. So in general, the Danish population regret it, but it's a question that has divided the country into two parts, actually, because one part regret it and wish it very much and would like to have the euro, and the other part has made it into an emotional question of losing the local currency, and instead of seeing it as a positive way of gaining a new currency that widens the market, they see it as a negative side, and they are afraid of losing the Danish krone. And when you come to Denmark, you will have to make your exchanges, Eric.
Oui, en fait, Le pays est divisé en deux. Il y a des gens qui regrettent de ne pas avoir accepté le euro, surtout les entreprises. Au niveau mondial, c'est plus simple avec le euro. Mais de l'autre côté, il y a les gens qui ont peur de perdre la monnaie, le krone. Donc, ils veulent garder la propre monnaie. Donc...
Alors, par rapport à l'histoire de la Constitution, donc au Danemark, comment est-ce que ça va se passer? Comment la décision va être prise?
So, how are you going to make the decision as regards the Constitution? What do you think is going to be the result?
The prognosis about the Constitution is that we are going to vote for it. But when we are going to vote for it and how it is going to be, it's not quite clear yet. But our Prime Minister has promised the Danish population that it is up for a democratic vote when time comes.
Okay. En fait, ils ne savent pas encore quand ils vont voter pour la Constitution, mais le Premier ministre, il a dit que ça va se passer comme ça, un vote démocratique, mais pour le moment, ils ne savent pas quand.
Et vous avez l'impression qu'au Danemark, les gens sont favorables à cette constitution ou pas? Est-ce qu'on parle beaucoup du débat qui a lieu en France actuellement?
Are people generally favorable to the constitution in Denmark?
In general, yes, they are. They are looking very much towards France and Germany and Spain to see how the referendums in these countries are going to fall out. But in general, the Danish population, as I said before, was divided, but there is a tendency that it is beginning to grow towards a positive side for the EU.
Oui, en général, les gens sont positifs. Ils regardent ce qui se passe à côté, en France, en Espagne et en Allemagne. Et ils pensent que, oui... ça va être positif pour l'Europe.
Alors, pour ce qui est maintenant d'un autre pays, merci Soren pour cette intervention sur le Danemark. Nous allons partir maintenant vers l'Irlande. L'Irlande, c'est Phil qui nous vient de Ballinamore, zone rurale au cœur de l'Irlande. Phil, à qui nous allons poser une question très simple. L'Irlande a fait un bond en avant terrible avec l'Europe. C'est devenu un endroit qui intéresse beaucoup les entreprises. Donc ma question, elle est très simple, c'est comment vous, les Irlandais, maintenant, vous percevez cette Europe dans laquelle vous êtes devenu très fort, très fort?
Oui, c'est vrai, Eric, nous sommes très très forts en Europe et grâce aux subventions et tout ça, nous avons des belles routes et beaucoup d'industries. Mais je crois que en Irlande, en ce moment, on a un peu peur de perdre notre puissance.
C'est avancé, oui.
Oui, oui. Et on a peur de perdre certaines industries à l'est d'Europe, peut-être. Mais et aussi les fermiers. C'est plutôt difficile pour les fermiers en ce moment car il y a beaucoup de règlements grâce à l'Europe, disons, et beaucoup de papiers à remplir et tout ça. Mais je crois que la plupart de la population sont toujours très positifs vis-à-vis de l'Europe.
Alors, comme tu parles couramment anglais, évidemment, puisque tu es quand même un peu irlandaise, est-ce que tu peux nous résumer en anglais ce que tu viens de dire? Juste résumer.
Bien sûr.
Pour nos partenaires autour de la table.
Oui. It's true, Eric, that Ireland is quite a powerful country in Europe, and that's thanks to many subventions that we have received since our entry into Europe with Great Britain and Denmark in 1973. When, for example, you travel in our country, you notice that the roads are quite good. De temps en temps, des nids de poules, mais they are very, very good. And we have many, many good industries. But at the same time, there is a certain fear in the country that these industries are in threat or they're in danger now, and that perhaps these big companies will move to Eastern Europe. We will see. But on the whole, Ireland is a very positive country vis-à-vis Europe.
Est-ce que tu peux nous dire, Phil, comment vous allez décider par rapport à la question de la Constitution en Irlande?
Oui, normalement, les décisions comme ça sont faites par référendum, et je crois que il y aura un référendum bientôt. Quand exactement, je ne sais pas, mais Bertie Ahern, notre premier ministre, il est très positif pour l'Europe et il nous a promis d'avoir un référendum bientôt.
Merci. Donc, référendum en Irlande à venir.
Oui, et à l'avenir et avec une réponse oui. Je pense.
Nous allons avancer maintenant vers les piliers historiques pratiquement de l'Europe, puisque il nous reste en fait à écouter le Luxembourg, l'Allemagne et puis la Bretagne, la France, parce que ça permettra moi de ne pas m'exprimer pour la France. José, tu es luxembourgeoise.
Oui.
Alors au Luxembourg vous êtes européen à 200%.
Sûrement. Hein. Je pense que nous n'allons pas créer une surprise négative. Hein. Le 10 juillet, lorsque nous allons voter pour l'Europe.
C'est le 10 juillet.
Le 10 juillet, oui. Aura lieu donc le référendum. Et bon, pour l'instant, il n'y a pas de vrai débat chez nous parce que j'ai l'impression que c'est une évidence pour nous de dire encore une fois oui à l'Europe. Nous sommes parmi les nation fondatrice de l'Europe et nous sommes vraiment très très attachés à cette tradition, donc je pense qu'on va être fidèles aussi à ce moment-là à cette tradition. Pour nous, être européens, c'est une évidence, hein, c'est-à-dire que nous sommes au carrefour de l'Europe et donc c'est une nécessité absolue pour nous de communiquer avec les autres nations. Et donc, on a toujours pensé que l'union fait la force, puisqu'on est vraiment tout petit, c'est vraiment vital. Et ça nous paraît tout à fait normal de dire oui, encore une fois, à l'Europe, comme on dit oui, comme on dirait oui à je dirais, dans un couple, dans un mariage ou un mariage heureux, hein, on dirait oui plusieurs fois, je crois.
Quoique.
Ah bah oui, il faut rester romantique.
Donc, quand vous voyez le nom qui se profile en France, enfin, qui monte en France, vous devez vous dire, mais on n'y comprend rien, c'est français?
Non, on est passionné par la France, du moins moi. Non, je pense que la plupart des Luxembourgeois adorent la France. Et on suit avec beaucoup d'attention le débat, il est passionnant. Mais c'est vrai que nous, on a un tempérament plus calme, on n'a pas cette tradition de la discussion. Et donc, on est impressionné par la ferveur avec laquelle vous discutez, hein, oui. Mais donc, ce n'est pas vraiment le cas chez nous. Donc, par tradition, je dirais à la fois, et aussi parce qu'on est quand même un peu chanceux. L'économie va bien chez nous, donc on n'a pas les mêmes problèmes et on ne glisse pas vers un débat sur la politique intérieure chez nous, probablement. Je dis probablement puisque ce sera le 10 juillet seulement qu'on votera et donc il nous reste 2 mois et demi, mais bon.
Voilà, Julie, pour nous aider à comprendre en anglais ce qui vient d'être dit en français, l'auditeur comprend bien lui par contre.
Okay, obviously in Luxembourg they are very very European. They're going to have a vote on the 10th of July. It's one of the founder nations of Europe. They're at the crossroads of Europe, so it's necessary for them to be positive, and they are positive about it. A question was asked, what do the people in Luxembourg think about the debate going on in France? People in Luxembourg are following this debate with interest. In Luxembourg they are calmer perhaps, and they are impressed by the fervor of the discussion. In Luxembourg, they're lucky to have a very good economy, so the problems are not the same. So it's not necessarily going to be the same answer as in Luxembourg.
Tim, tu viens d'Allemagne, d'ailleurs l'ancienne Allemagne de l'Est, puisque tout à l'heure, Stéphane Le Foll a rappelé la réunification, l'importance, etc. Donc là, ma question portera non pas la question de la réunification, parce que ce n'est pas ça qui est vraiment directement en jeu, quoique peut-être que tu pourras nous le confirmer. En tout cas, comment l'Allemagne voit évoluer l'Europe, sachant que c'est un poids très très lourd, très important, par sa population, par son économie. Donc, comment est-ce qu'on ressent aujourd'hui l'Europe en Allemagne? Question.
In English.
Yes.
Tim, as you come from the former East Germany, what could you tell us about how the population there feels about Europe from the political or economic point of view?
Well, I think there are quite a few opinions about that. Let me say, actually, I came to East Germany 10 years ago, and I think the attitude has changed. I think people were very enthusiastic after the wall came down, and I think because we have still quite a few of economical problems in East Germany, people are sometimes a little bit fed up. But on the other hand, it is quite true that the EU gave a lot of money for East Germany. So in general, I would say that people are in favor of it. As you might know, we don't have a referendum in Germany. We have a different system. We will have a vote. In fact, it's quite soon. It's, I think, on May the 12th. But it will be in Parliament. And the outcome is quite clear. We need a majority of, 2/3, and it will not be a problem.
Oui, en fait, il a vu que l'attitude en Allemagne a changé depuis le mur de Berlin est tombé. À ce moment-là, il avait beaucoup d'enthousiasme. Mais depuis, la population a constaté qu'il y a encore des problèmes économiques. Mais l'Europe a donné beaucoup d'argent et donc c'est assez positif. Mais bientôt, ils vont avoir, un vote, parce qu'ils n'ont pas de référendum en Allemagne. C'est le gouvernement qui va voter le 12 mai. Et s'il y a 2/3 qui sont oui, c'est porté.
Et s'il n'y a pas 2/3, c'est non. La majorité des 2/3 est obligatoire.
Is it 2/3? If 2/3 say yes, the vote is carried.
Yes,
is that right?
But actually, the parties in parliament agreed on that. So you need a 2/3 majority in both houses of parliament. So we have the parliament itself, and then we have the second house. That is, we're talking here about all the federal states. But they will say yes with a 2/3 majority.
Une dernière question, Tim, parce que le temps avance. Est-ce que on ressent l'Europe de la même façon dans l'ancienne Europe de l'Est et dans l'ancienne Europe de l'Ouest? Dans l'ancienne Allemagne. L'ancienne Allemagne de l'Est et l'ancienne Allemagne de l'Ouest. Est-ce qu'on ressent l'Europe de la même façon?
Do you think people feel the same about Europe in the old East Germany and the old West Germany?
I think in general there is a difference. Because people in West Germany grew up with it, I think the support for EU is a bit bigger in the West than in the East. But I suppose it will change because, as I said, there are quite a few benefits in East Germany because of the EU. Just like in Ireland, we get lots of money for development things in East Germany.
Mais il y a une différence dans l'Allemagne de l'Ouest. Il a plus de soutien pour l'Europe parce que il connaît l'Europe depuis longtemps déjà. Et dans l'Europe de l'Est, dans l'Allemagne de l'Est, excuse-moi, il constate des bénéfices. Donc il devient de plus en plus positif parce qu'il voit qu'il y a beaucoup d'argent quand même dans le pays grâce à l'Europe.
Alors nous allons conclure avec Alain en quelques secondes, quelques minutes. Allez, on va dire quelques secondes parce que Noël derrière doit reprendre l'antenne. On a déjà dépassé de 5 minutes le temps normal. Alain, tu viens de Bretagne. La Bretagne est une région qui a une très forte identité, une très forte, de très forts particularismes sociaux, économiques, politiques. Dans la région de Concarneau, où il y a la pêche, tout ça. Comment est-ce qu'on parle aujourd'hui du référendum ?
Alors, il faut savoir que la Bretagne était l'une des régions qui a voté le plus en faveur du traité de Maastricht. Et actuellement, donc, selon les sondages, donc, il y aurait un vote favorable, n'est-ce pas, pour ce traité. Mais c'est vrai que il y a débat à tous les niveaux, avec les pêcheurs, avec les agriculteurs, parce que ce sont des domaines où il y a une concurrence avec nos partenaires européens.
Et apparemment, la Bretagne, est-ce qu'elle est comme l'ensemble de la France, ou est-ce que le oui, le non semble plus fort?
Actuellement, le oui donc est à 52%. Quoi.
C'est une région très européenne.
Très européenne. Oui.
Ok, Julie.
Yes, the debate in Brittany is quite heated, but in general they are positive about Europe, but farmers and fishermen are not always happy because they're in competition with their European partners, but the vote is expected to be a yes.
Ok, à 18h05, il est largement temps pour nous de rendre l'antenne à Noël qui va nous rentrer dans la campagne justement sur ce référendum avec, je crois, quelqu'un du Parti communiste qui doit intervenir. Mais pour l'instant, eh bien, il me reste à remercier ici pour ces informations très très intéressantes, très très concrètes, très très utiles qui nous ont été données par Paz pour l'Espagne, par Phil pour l'Irlande, par José pour le Luxembourg, par Søren pour le Danemark, par Marina pour la Lettonie, Karina pour la Pologne, Tim pour l'Allemagne, Alain pour la Bretagne, Diana pour la Roumanie et puis également Stéphane Le Foll pour avoir un point de vue politique de député européen donc qui voit les enjeux à une échelle évidemment plus large que notre propre échelle, mais la vraie échelle c'est celle de la vie de tous les jours et c'est sur celle-là que nos amis devaient témoigner. Cette émission spéciale est maintenant terminée, donc merci donc de nous avoir écoutés. Vous allez retrouver dans quelques instants Noël avec le journal de la Haute-Sarthe dans une séquence plus classique, plus proche de l'habituel. Merci à vous et bonne soirée dans tous les cas.